Le livre de Joël et l'Église adventiste du septième jour laodicéenne. Numéro 36.
Le nombre 36.
Dans le tumulte que James White identifie comme la dispersion des Millérites après le 22 octobre 1844, William Miller eut un songe en 1847. Et deux ans plus tard, il fut mis au tombeau.
Si William Miller avait pu voir la lumière du troisième message, bien des choses qui lui paraissaient obscures et mystérieuses auraient été expliquées. Mais ses frères professing pour lui un amour et un intérêt si profond qu'ils pensaient ne pouvoir s'arracher à eux. Son cœur s'inclinait vers la vérité, puis il regardait ses frères. Ils s'y opposaient. Pouvait-il s'arracher à ceux qui s'étaient donnés à lui already pour proclamer la venue de Jésus? Il pensait qu'ils n'y ligareraient assurément pas.
Dieu permit qu'il tombât sous la puissance de Satan, sous l'empire de la mort, et le cacha dans la tombe, à l'abri de ceux qui ne cessaient de le détourner de la vérité. Moïse commit une faute au moment d'entrer dans la terre promise. De même, je vis que William Miller commit une faute alors qu'il allait bientôt entrer dans le Cana céleste en laissant son influence s'opposer à la vérité. D'autres l'y conduisirent. D'autres devront en rendre compte. Mais les anges veillent sur la poussière précieuse de ce serviteur de Dieu et il sortira de la tombe au son de la dernière trompette.
Une plateforme solide.
Je vis une assemblée qui se trônait sur ses gardes et ferme, n'accordant aucun appui à ceux qui voudraient ébranler la foi établie du corps. Dieu les regarda avec approbation. Il me fut montré trois marches, le premier, le deuxième et le troisième message angélique. Mon ange accompagnateur dit « Malheur à celui qui déplacerait une pierre ou remuerait une cheville de ses messages. La juste intelligence de ses messages est d'une importance vitale. Le destin des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Je fus de nouveau conduite à travers ces messages, et je vis combien chèrement le peuple de Dieu avait acquis son expérience. Elle avait été obtenue au prix de grandes souffrances et de rudes combats. Dieu les avait conduits pas à pas, jusqu'à ce qu'il les eût placés sur une plateforme solide et inébranlable. Je vis des individus s'approcher de la plateforme et en examiner le fondement. Certains, dans l'allégresse, y montèrent aussitôt. D'autres commencèrent à trouver à redire au fondement. Ils désiraient qu'on y apportât des améliorations. Alors la plateforme serait plus parfaite et le peuple beaucoup plus heureux. Quelques-uns descendirent de la plateforme pour l'examiner et déclarèrent qu'elle était mal posée. Mais je vis que la plupart se tenaient fermes sur la plateforme et exhortaient ceux qui en étaient descendus à cesser leurs plaintes. Car Dieu était le maître bâtisseur et ils combattaient contre lui. Ils rappelaient l'œuvre merveilleuse de Dieu, qui les avait conduits à la plateforme solide et, d'un commun accord, levaient les yeux vers le ciel et à haute voix glorifiaient Dieu. Cela toucha certains de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme, et eux, d'un air humble, y remontèrent. Premiers écrits, 258.
Les œuvres merveilleuses de Miller.
L'œuvre merveilleuse de William Miller a conduit au fondement ferme, qui était la plateforme solide et inébranlable. Le fondement de la plateforme inébranlable, ainsi que l'attaque ultérieure contre la plateforme et le fondement qui furent introduits après la mort de Miller en 1849, est identifié dans son songe.
William Miller est le symbole des fondements de l'adventisme.
Il est également le symbole de l'histoire millérite de 1798 jusqu'en 1863.
Il est également le symbole de l'histoire millérite de 1798 jusqu'en 1844.
Il est également le symbole de l'histoire des trois anges de 1798 jusqu'à la loi du dimanche.
Il est représenté par les 46 années s'étendant de 798 à 1844.
Il est représenté par le nombre 220 en relation avec les 2520 et les 2300.
Il est représenté par les 7 temps, le 2520p.
Il est représenté par les 2300.
Les deux songes de Miller furent préfigurés par les deux songes de Nabuchodonosor au chapitre 2 et 4 du livre de Daniel.
La période de 2698 commence avec Nabuchodonosor et s'achève en 1863 avec Belshazzar.
La période allant de 1798 à la loi dominicale commence avec Nabuchodonosor et s'achève avec Belshazzar.
En tant que symbole de l'histoire des Millérites, il est le symbole des fondements, lesquels représentent les vérités qui furent découvertes entre la découverte alpha des 2500 et la découverte oméga des 2300. Commentant le rêve de William Miller, James White reconnut que la clé était la méthode de Miller pour l'étude de la Bible.
La méthodologie est la clé de David qui fut posée sur l'épaule de Miller, car il présenta la prophétie des 2300 ans, laquelle prit fin lorsque Ésaïe 22:22 fut accomplie, le 22 octobre 1844. Les vérités qui ont commencé à être décelées à partir de 2023 sont celles qui avaient déjà été identifiées dans les 95 présentations des tables d'Habacuc, et ces vérités sont désormais établies dans un nouveau cadre de Vemenge. L'appel de la voix dans le désert, en juillet 2023, a établi que les pleurs et les lamentations étaient nécessaires pour ceux qui devaient se repentir à l'égard de la proclamation du 18 juillet 2020. Ceux qui seraient au nombre des vierges sages devaient se repentir conformément à la prière de Daniel 9, laquelle est la prière de ceux dont parle Zacchaïe 1:6, qui reconnaissent qu'ils ont été dispersés.
Lorsque Miller déclare « Tandis que je pleurais et me lamentais ainsi sur ma grande perte et ma responsabilité, je me souvins de Dieu et priai instamment pour qu'il m'envoyât du secours. » Aussitôt, la porte s'ouvrit, et un homme entra dans la pièce. Alors toutes les personnes présentes la quittèrent, et lui, tenant à la main un balai, ouvrit les fenêtres et se mit à balayer la saleté et les immondices hors de la pièce. La porte qui s'ouvrit fut le cœur de Miller lorsqu'il pria instamment pour recevoir de l'aide. Jésus, le témoin véritable à l'Odyssée, frappe à la porte des cœurs, cherchant à y entrer. Lorsque la porte s'ouvrit, un processus de séparation commença. Lorsque la porte s'ouvrit, les fenêtres s'ouvrirent également. Et les fenêtres sont les fenêtres du ciel.
Jean vit les fenêtres du ciel s'ouvrir au chapitre 19 de l'Apocalypse, alors que le Seigneur suscitait son armée de chevaux blancs immédiatement après que l'épouse se fut préparée. Cette armée est l'armée d'Ézéchiel, qui se dresse en réponse au message du vent d'Orient impétueux. Cette armée est l'Église triomphante, qui passe de l'Église militante à l'Église triomphante lorsque la séparation du blé et de l'ivraie est accomplie. Cette séparation est également représentée comme le passage de l'expérience laodicéenne à l'expérience philadelphienne. Miller ouvrit son cœur et laissa entrer le témoin véritable, tandis qu'il séparait le blé et l'ivraie, ressuscitant ainsi son armée de chevaux blancs.
Le 31 décembre 2023, l'homme à la brosse à poussière est entré dans la salle après le départ du peuple et a commencé l'œuvre d'ôter les immondices de l'erreur, tout en plaçant les anciennes vérités des tables d'Habacuc dans un nouveau cadre de vérité.
Le Sauveur n'était pas venu pour mettre de côté ce qu'avaient dit les patriarches et les prophètes, car il avait lui-même parlé par ses hommes représentatifs. Toutes les vérités de la parole de Dieu provenaient de lui. Mais ces joyaux inestimables avaient été placés dans de fausses montures. Leur précieuse lumière avait été mise au service de l'erreur. Dieu voulait qu'ils soient retirés de leur monture d'erreur et replacés dans le cadre de la vérité. Une telle œuvre ne pouvait être accomplie que par une main divine. Par son association avec l'erreur, la vérité servait la cause de l'ennemi de Dieu et de l'homme. Le Christ était venu pour la placer là où elle glorifierait Dieu et œuvrerait au salut de l'humanité. Le désir des âges, 287.
L'une des premières vérités enseignées en 2024 fut l'explication du désappointement du 18 juillet 2020. Ligne sur ligne, il fut reconnu que les premiers désappointements de chaque ligne de réforme identifiaient le 18 juillet 2020 comme un jalon principal dans la parabole des 10 vierges. Le sujet du désappointement devint la clé pour déverrouiller la vérité du sanctuaire, tandis que, lors du grand désappointement de 1844, le sanctuaire était la clé qui déverrouillait le désappointement. L'homme à la balayette, qui est aussi le lion de la tribu de Juda, a commencé à déceler le message du cri de minuit en 2023. Nous sommes maintenant parvenus, dans le rêve de Miller, au moment où il place sur la table le coffret plus grand et y jette les vérités destinées à resplendir 10 fois plus que le soleil. L'un de ces joyaux est la révélation de qui il est dans le récit prophétique.
Lorsque la prophétie est décelée, il est le lion de la tribu de Juda, qui prend d'anciennes vérités et les place dans un nouveau cadre, celui des 3 étapes de la vérité. Ce cadre est maintenu par le Christ en tant que l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En tant que parole de Dieu, il a orchestré chaque élément de sa parole. En tant que palmonie, il a conçu chaque aspect des mathématiques. Lorsque Pierre est à Césarée de Philippe, à la 3e heure, il se présente comme palmonie en mettant l'accent sur les fractales prophétiques. L'une des dernières révélations du Christ en tant que Seigneur de la prophétie est l'accent mis sur les fractales prophétiques, telles que représentées par Pierre en Matthieu 16:18, qui est le symbole de 1,608, appelé dans le monde naturel le nombre d'or, mais fractal prophétique par palmonie. Nous n'avons fait que commencer à identifier les fractales prophétiques qui sont situées au sein de la semaine sacrée de 27 à 34.
Avant d'y revenir, sur notre chemin vers le livre de Joël, l'accent porté sur les fractales prophétiques devait être intégré à notre examen du rêve de Miller.
La période qui va de 1798 jusqu'à la loi du dimanche englobe l'appel de Miller, adressé aux gens « Venez et voyez », ainsi que celui du Christ, en tant que l'homme à la brosse à poussière, adressé à Miller « Viens et vois ». Mais elle contient, au sein de cette histoire d'ensemble, une fractale correspondant à la période de 1798 jusqu'à 1863. Elle en contient une autre du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche, et une autre de 2023 jusqu'à la loi du dimanche.
Quand Miller ferma les yeux dans le tumulte, il représentait l'histoire de 1849, alors que le Seigneur tentait d'achever l'œuvre, mais en vain. Il fut ressuscité en 2023. Car il est Élie qui fut mis à mort dans la rue avec Moïse. Il mourut en 1849, puis mourut de nouveau le 18 juillet 2020.
Son change fut donné en 1847, puis le Seigneur étendit sa main une seconde fois et publia le tableau de 1850. Lorsque le Seigneur étend sa main une seconde fois dans l'histoire des 144 000, Miller est ressuscité. Le point de départ de la dispersion d'Israël et de Juda est exposé dans le livre d'Isaïe.
« Car la tête de la Syrie, c'est Damas. » Et la tête de Damas, c'est Retsin. Et dans 65 ans, Éphraïm sera brisé, de sorte qu'il ne soit plus un peuple. Et la tête d'Éphraïm, c'est Samarie. Et la tête de Samarie, c'est le fils de Remalia. Si vous ne croyez pas, certainement, vous ne serez pas affermis. Ésaïe 7, 8, 9.
La prophétie fut donnée en 742 avec Jésus-Christ. Et 19 ans plus tard, en 723 avec Jésus-Christ, Israël fut dispersé par les Assyriens, puis 46 ans plus tard, Juda fut dispersé par Babylone. Ces trois dates représentent une période de 19 ans, suivie de 46 ans. Lorsque ces deux prophéties prirent fin respectivement en 1798 et 1844, la période initiale de 19 ans allant de 742 avec Jésus-Christ jusqu'en 7 Antoquatus, jusqu'en Syrien fut constituée les 19 ans Alpha, lesquels représentaient les 19 ans Oméga, de 1844 jusqu'en 1863.
Miller mourut 5 ans après le début de l'Oméga de 19 ans et, 7 ans plus tard, furent publiés les articles de Hiram Edson sur les 7 temps. 7 ans plus tard, les 7 temps furent rejetés. 1856 devait être le scellement qui précédait la loi du dimanche de 1863, mais il n'en fut rien.
Le troisième ange est apparu en 1844, en 1888 et le 11 septembre. Sir White a indiqué que, lorsque les grands édifices de la ville de New York s'effondreraient, les trois premiers versets d'Apocalypse 18 s'accompliraient.
Veuillez fournir le texte anglais exact de Revelation 18 à traduire. Je ne peux pas consulter de référence externe.
Verset 1. Et après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire.
Verset 2. Et il cria avec force d'une voix puissante, disant, Babylone la grande est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde, et une cage de tout oiseau impur et odieux.
Verset 3. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de ses délices.
Le puissant premier ange descendit, tenant dans sa main un message, et l'ordre fut donné à Jean d'aller prendre le petit livre et de le manger. Ce premier ange accomplit la même œuvre que l'ange de l'Apocalypse 18, qui illumine la terre de sa gloire. Car le premier ange est l'alpha, et le troisième ange est l'oméga. Et le commencement illustre toujours la fin.
Jésus chargea un puissant ange de descendre et d'avertir les habitants de la terre de se préparer à son second avènement. Alors que l'ange quittait la présence de Jésus dans le ciel, une lumière extrêmement brillante et glorieuse le précédait. Il m'a été dit que sa mission était d'éclairer la terre de sa gloire et d'avertir les hommes de la colère de Dieu à venir. Premiers écrits, 245.
Le premier ange s'identifie au verset 1 de l'Apocalypse 18.
« Et après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. »
Le second ange est au verset 2 de l'Apocalypse 18.
« Et il cria puissamment d'une voix forte, disant, « Babylone la grande est tombée !» est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit impur, et la cage de tout oiseau impur et odieux.
Le troisième ange est le verset 3 de l'Apocalypse 18.
Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont livrés avec elle à la fornication, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de ses délices.
Tous les rois se livrent à la fornication avec la prostituée lors de la loi du dimanche, comme le typifie le verset 3.
Le message du deuxième ange est que Babylone est tombée, et cela correspond au verset 2. La mission du premier ange était d'éclairer la terre de sa gloire, et c'est le verset 1. Le verset 1, c'est le 11 septembre. Le verset 2 est le processus de séparation qui se poursuit dans toute l'humanité depuis le 11 septembre. Et le verset 3, c'est la loi du dimanche. Pour cette raison, le 11 septembre est le message du troisième ange, et il en va de même pour la loi du dimanche. Le 11 septembre est l'avertissement de l'imminence de la loi du dimanche, telle que représentée dans les trois premiers versets. Et l'autre voie du verset 4 est la loi du dimanche. La première voie d'Apocalypse 18 est l'avertissement de l'imminence de la loi du dimanche, et cet avertissement se transforme en réalité vivante lors de la loi du dimanche.
La période s'étendant du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche est préfigurée par l'intervalle qui va du « viens et vois » alpha du rêve de Miller au « viens et vois oméga ». Entre le 11 septembre et la loi du dimanche, les joyaux sont déposés sur la table de Miller, au centre de la pièce, dispersés et enfouis, puis restaurés par l'homme à la brosse à poussière. L'ange qui descendit en 1840 avec le petit livre fut le premier, l'ange alpha, qui représentait l'ange descendu le 11 septembre. Cet ange est identifié au chapitre 10, lorsqu'il est dit à Jean que le livre serait doux, mais deviendrait amer.
Jean représentait le mouvement du premier ange, représenté par les Millerites, et il illustrait aussi le mouvement des 144 000. Avant tout, il représentait les derniers jours, comme le font toujours les prophètes. C'est pour cette raison qu'il lui fut annoncé d'avance que le livre serait doux, puis amer. Les Millerites ne le savaient pas d'avance, mais les 144 000 sont tenus de le savoir.
Miller, en tant que messager du premier ange, est le premier symbole de celui qui a dévoré le petit livre. En tant que meunier, il devait séparer le blé de la balle, puis moudre le grain en farine et faire le pain destiné à être mangé. Il partagea le pain en le plaçant au centre de sa chambre et en appelant tous ceux qui les désiraient. « Venez et voyez !» Mais, en tant que symbole de celui qui prit le livre de la main de l'ange, Miller, à la star de Jean, s'adresse davantage au dernier jour du troisième ange qu'au premier jour du premier ange. Dans son rêve, il commence par nous informer qu'il a reçu son message par une main invisible. Le premier ange d'Apocalypse 10 tient un petit livre dans sa main, mais l'ange d'Apocalypse 18, qui est l'oméga par rapport à l'alpha de 1840, n'a pas de livre représenté dans sa main. Et c'est ce livre-là que Miller a reçu, le livre venu d'une main invisible. Le « Venez et voyez » de Miller est le 9-1, et le « Venez et voyez » de l'homme à la brosse à poussière est la loi du dimanche.
Entre l'alpha et l'oméga, « via et voie », se trouve le message du second ange, car l'alpha est le 9-11, ce qui correspond au verset 1 du chapitre 18, et le verset 2 est le second ange, qui se conclut au verset 3, lequel est la loi du dimanche et l'oméga « viens et vois ». Dans le songe de Meilleux, le second ange et la chute de Babylone sont représentés par les sept occurrences du mot « scatter », tandis que l'ensemble du récit identifie la vérité comme étant vaincue par l'erreur.
Les premiers et troisièmes anges descendirent portant le message qui doit être pris et mangé le 11 août 1840 et le 11 septembre respectivement. Les deux dates correspondent au verset 1er du chapitre 18 de l'Apocalypse. Les vérités fondamentales furent publiées en mai 1842, le tableau pionnier de 1843 constituant l'alpha des deux tables d'Habacuc. En 2012, les tables d'Habacuc furent publiées, en correspondance avec mai 1842.
Les Millerites connurent leur première déception le 19 avril 1844, préfigurant le 18 juillet 2020. À ce moment-là, le second ange arriva et son arrivée s'aligna sur le verset 2 d'Apocalypse 18. Cette déception marqua la fin du premier ange. Là, le second ange arriva et le temps d'attente dans la parabole des vierges commença. L'histoire du premier ange doit se dérouler en parallèle avec l'histoire du second. Et, lorsqu'on l'applique de cette manière, l'arrivée du second ange s'aligne sur l'arrivée du premier ange en 1840 et le 11 septembre.
Une temps d'attente survint le 11 septembre, préfigurée par le 19 avril 1444. Ce jour-là, les quatre vents de l'islam furent déchaînés, puis contenus. Ces quatre vents, chez Jean, sont les vents impétueux d'Ésaïe et le vent d'Orient, de la prophétie. Et l'ange du scellement s'élève de l'Orient. Lorsqu'il s'élève, il s'écrie « retenez, retendez, retenez, retenez » quatre fois, selon Sir White. Le temps d'attente qui commence avec l'arrivée du second ange est représenté par les quatre vents retenus jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés.
Après la première déception, Samuel Snow fut conduit à élaborer le message du cri de minuit, préfigurant ainsi la voix dans le désert en juillet 2023.
À Castor Meeting in Exeter, la séparation des vierges, opérée par l'épreuve de l'huile, épura et purifia également les millérites, en harmonie avec l'œuvre du messager de l'Alliance. Le Caster Meeting, Exeter, représenta le scellement, car l'œuvre alla dès lors de l'avant comme un raz-de-marée ou comme une armée puissante, jusqu'à l'arrivée du troisième ange le 22 octobre 1844. La clé de l'histoire est la séparation.
Le deuxième ange accomplit une œuvre de séparation lorsqu'il arrive, comme il l'a fait lors de la première déception, et celle-ci s'est achevée avec la séparation du 22 octobre. Entre ces deux séparations, le message du deuxième ange fut proclamé. Le deuxième ange opère une séparation progressive jusqu'à l'épreuve finale de l'huile. L'épreuve finale de l'huile conduit à la pierre de touche du troisième ange. Cette pierre de touche fut, pour Jésus, la croix, et le jardin de Gethsémané, qui signifie « jardin du pressoir à huile », a précédé la pierre de touche de la croix, et l'épreuve de l'huile des vierges a précédé la porte fermée de 1844.
L'épreuve finale, suivie du jugement, fut la dixième épreuve pour l'Israël ancien. Il fut alors condamné à mourir dans le désert. Que ce soit Kadesh, Gethsémané ou Exeter, l'épreuve finale avant le jugement, où les deux classes sont séparées, identifie une épreuve finale postérieure à 2023 qui précède le jugement à porte close de la loi dominicale. Cette épreuve finale est le scellement. Une épreuve finale ou ultime implique l'existence d'une première épreuve.
Inducement 23, le temps d'attente prit fin lorsque le lion de la tribu de Juda leva le sceau de la vision qui devait tarder en retirant sa main. Alors commença l'œuvre de Samuel Snow.
Si nous plaçons en parallèle les périodes du premier et du second ange, elles identifient la descente d'un ange porteur d'un message qui met à l'épreuve le peuple de Dieu par sa réponse au commandement de prendre et de manger ce message. Le message fondamental est alors rendu public jusqu'à ce qu'il échoue. Alors le troisième ange arrive. La période du troisième ange correspond aux 19 années qui furent les 19 années Oméga, de 742 avec Jésus-Christ, jusqu'en 701 de Troie avec Jésus-Christ.
La période de 1844 jusqu'en 1863 et la période de 744 Emissinorphèque à 723 vers Sivetsi sont parallèles l'une à l'autre, et aussi parallèles aux périodes du premier et du second ange. Ces quatre lignes d'histoire prophétique s'alignent sur la période allant du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche. Ces cinq lignes constituent l'histoire de l'alpha de Miller, vient et voit, et de les 104 Millerhas, vient et voit.
4 x 7.
Correctement compris, Lévitique 26 mentionne à quatre reprises les sept temps, et les sept temps constituent un symbole de Miller et de son message. En 1842, la compréhension que Miller avait des sept temps fut consacrée sur le tableau de 1843, dont Sir White affirme qu'il fut dirigé par la main du Seigneur et qu'il ne devait pas être modifié. Sept ans plus tard, Miller meurt en 1849, et sept ans plus tard, le message des sept temps est consigné par Hiram Edson, et sept ans plus tard, il est rejeté.
In Atom tira très vite, la première table d'Habacuc fut publiée.
En autre fin 49, le messager alpha des sept temps, figurant sur le tableau de 1843, meurt.
En Atom 5 faces, le messager oméga des sept temps sur le tableau de 1550 est ignoré.
En Utsin 63 Tigné, les deux tableaux d'Habacuc furent rejetés, et le tableau de 1163 fut publié.
Un tableau divin publié au commencement et un tableau humain publié à la fin.
Au milieu, deux messagers sont identifiés, car le deuxième message est toujours double.
Premier ange.
In Atom tira très vite, la première table d'Habacuc fut publiée.
Second ange.
En 18 Chaton 9, le vieux messager du tableau de 1843 décède.
En octobre 26, le nouveau messager a du tableau de 1550 est ignoré.
Troisième ange.
En 06 entre Pratus, le message est rejeté, et le tableau de 1800 entre Tassant a été publié.
Une période de 21 ans représente quatre symboles des sept temps, équidistants de sept temps. Le message alpha est publié, 1842. Le messager alpha meurt, 1849. Le messager oméga est ignoré, 1856. Et le message oméga est rejeté, 1863. Préfigurant 2012, le 18 juillet 2020, 2023 et la loi dominicale imminente. La mort de Miller en 1849 correspond au 18 juillet 2020. Le messager et le message ont été ressuscités en 2023. Le message oméga est maintenant en voie d'être décelé et il est suivi par la loi dominicale de 1863.
Dans le mouvement millérite, le message fut établi, puis le messager mourut.
Dans le mouvement parallèle, le message fut établi, puis le message mourut. Le message fut ressuscité en 1856 et en 2023. L'apostasie est la désignation de 1863
et la victoire et la désignation de son pendant à la loi du dimanche. Avant l'apostasie de 1863 et la victoire lors de la loi du dimanche, le décèlement de la lumière oméga, pierre de fête des sept temps de 1856, est présenté, ainsi qu'il l'est depuis 2023.
Nous continuerons dans le prochain article de Pater.
William Miller, 1782-1849.
William, volonté et casque, protecteur résolu, gardien déterminé ou guerrier à la volonté ferme.
Meunier, personne qui exploite un moulin, en particulier un moulin qui moude le grain en farine.
Guerrier à la volonté ferme.
Une agriculteur intègre au cœur sincère, qui avait été conduit à douter de l'autorité divine des Écritures, mais qui désirait néanmoins connaître la vérité, fut l'homme spécialement choisi par Dieu pour prendre l'initiative de la proclamation du second avènement du Christ. Comme beaucoup d'autres réformateurs, William Miller avait, dans sa jeunesse, lutté contre la pauvreté et avait ainsi appris les grandes leçons d'énergie et d'abnégation. Les membres de la famille dont il était issu se distinguaient par un esprit indépendant, épris de liberté, par une capacité d'endurance et par un patriotisme ardent, des traits qui ressortaient aussi dans son caractère. Son père était capitaine dans l'armée de la Révolution et l'on peut attribuer au sacrifice qu'il fit au milieu des luttes et des souffrances de cette période orageuse les difficultés matérielles qui marquèrent les débuts de la vie de Miller.
Il avait une constitution physique robuste et dès l'enfance, il donna la preuve d'une force intellectuelle au-dessus de l'ordinaire. À mesure qu'il avançait en âge, cela devint plus marqué. Son esprit était actif et bien développé, et il avait une vive soif de connaissances. Bien qu'il n'eût pas bénéficié des avantages d'une éducation universitaire, son amour de l'étude et l'habitude de la réflexion attentive et de la critique rigoureuse firent de lui un homme au jugement sûr et aux vues étendues. Il possédait un caractère moral irréprochable et une réputation enviable, étant généralement estimé pour son intégrité, son esprit d'économie et sa bienfaisance. À force d'énergie et d'application, il acquit de bonne heure une aisance, bien que ses habitudes d'études fussent toujours maintenues. Il occupa avec distinction diverses charges civiles et militaires, et les avenues de la richesse et de l'honneur semblaient largement ouvertes devant lui. La grande controverse, 317.
La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas sans effort intellectuel, ni sans prière pour obtenir la sagesse, afin que vous puissiez séparer du grain pur de la vérité la paille dont les hommes et Satan se sont servis pour travestir les doctrines de la vérité. Satan et sa coalition d'agents humains ont cherché à mêler la paille de l'erreur au froment de la vérité. Nous devons rechercher avec diligence le trésor caché et demander la sagesse d'en haut, afin de séparer les inventions humaines des commandements divins. Le Saint-Esprit viendra en aide à celui qui recherche les grandes et précieuses vérités qui se rapportent au plan de la rédemption. Je voudrais insister auprès de tous sur le fait qu'une lecture superficielle des Écritures ne suffit pas. Nous devons chercher, et cela signifie accomplir tout ce que ce mot implique. De même que le mineur explore avec ardeur la terre pour en découvrir les filons d'or, de même vous devez explorer la parole de Dieu à la recherche du trésor caché que Satan s'est si longtemps efforcé de soustraire à l'homme. Le Seigneur dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura ce qu'il en est de la doctrine. » Jean 7, 17, version révisée.
La parole de Dieu est vérité et lumière et doit être une lampe à vos pieds pour vous guider à chaque pas jusqu'aux portes de la cité de Dieu. C'est pour cette raison que Satan a fait des efforts si désespérés pour obstruer le sentier qui a été frayé afin que les rachetés du Seigneur y marchent. Vous ne devez pas apporter vos idées à la Bible ni faire de vos opinions un centre autour duquel la vérité doit graviter. Vous devez déposer vos idées au seuil de l'étude et avec des cœurs humbles et soumis, le moi caché en Christ, dans une prière fervente, rechercher la sagesse auprès de Dieu. Vous devriez sentir que vous devez connaître la volonté révélée de Dieu, car elle concerne votre bien-être personnel et éternel. La Bible est un guide par lequel vous pouvez connaître la voie qui mène à la vie éternelle. Vous devriez désirer par-dessus tout connaître la volonté et les voies du Seigneur. Vous ne devriez pas chercher dans le but de trouver des textes de l'Écriture que vous pouvez interpréter pour prouver vos théories, car la parole de Dieu déclare que c'est tordre les Écritures à votre propre destruction. Vous devez vous vider de tout préjugé et aborder l'étude de la parole de Dieu dans un esprit de prière. Review and Herald, 11 septembre 1894.
William Miller naquit de Pittsfield dans le Massachusetts. Sa scolarité formelle ne dure que 18 mois. Mais il devint autodidacte grâce à son goût prononcé pour la lecture. Très tôt, il se mit aussi à écrire, composant des poèmes et tenant un journal. Ces lectures l'exposèrent à des auteurs incrédules qui exercèrent sur lui une influence l'inclinant vers le déisme. À la fin de la vingtaine, il devint juge de paix et combattit pendant la guerre de 1812. Plusieurs expériences au cours de ce conflit tournèrent sa pensée vers un Dieu personnel. Vers 1816, il se convertit et entreprit l'étude de la Bible avec sérieux. Il écrivit « Les Écritures devinrent mes délices, et en Jésus, je trouvais un ami. »
Dès 1818, au terme de son étude des prophéties, il avait conclu que Jésus reviendrait vers 1843. En 1831, il commença à partager publiquement ses études dans des cercles restreints, après avoir été saisi d'une profonde conviction et d'une direction providentielle en ce sens. Après avoir rencontré en 1839 J.V. Himes, éminent éditeur, la voie s'ouvrit pour prêcher à de larges auditoires dans les grandes villes. Bien que combattu par beaucoup, sa prédication, ainsi que celle d'autres qui avaient accueilli le message de l'avènement, eut un impact considérable, avec jusqu'à 100 000 personnes embrassant la croyance au retour prochain du Christ. Ellen Harmon l'entendit à Portland, dans le Maine, en mars 1840, alors qu'elle avait 12 ans. Elle rapporta « Monsieur Miller retraçait les prophéties avec une exactitude qui portait la conviction au cœur de ses auditeurs. Il s'attarda sur les périodes prophétiques et apporta de nombreux éléments de preuve pour étayer sa position. Puis ses appels solennels et puissants, ainsi que ses avertissements adressés à ceux qui n'étaient pas prêts, tenaient les foules comme subjuguées. Life Sketches, 20.